VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du vendredi 14 décembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, les trois principaux candidats à la présidentielle du 23 décembre en campagne dans les provinces. Nous retrouverons Thierry Kambundi de Top Congo FM.
Au Cameroun, arrêt des poursuites contre 289 détenus de la crise anglophone.
Le Conseil de sécurité a renouvelé jusqu'à fin 2019 la mission de paix de l'ONU en Centrafrique.
Ici à Washington, John Bolton, le conseiller présidentiel en matière de sécurité nationale, a révélé hier la nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique.
Et le Sénat américain lance un double avertissement à l'administration Trump sur le Yémen et l'Arabie Saoudite, ainsi que sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, à une semaine de la clôture de la campagne électorale, le ticket Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe a tenu un meeting devant des centaines de milliers de personnes à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du pouvoir, s'est rendu à Arou et à Mahagi dans la province de l'Ituri, alors que Martin Fayoulou, de la coalition Lamouka, se dit bloqué par le pouvoir à Goma dans le Nord Kivu. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Une fois au pouvoir, nous commencerons par la relance de la MIBA et l'amélioration de la vie sociale de la population, ont déclaré Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi devant plusieurs centaines de milliers d'habitants de Mbujimayi. Je sais qu'il n'y a ici pas d'eau ni d'électricité. La MIBA est en faillite, il n'y a aucune route en bon état, il y a un problème de scolarisation de nos enfants. Nous les réglerons une fois élus, a poursuivi Félix Tshisekedi, candidat du ticket CAP pour le changement. Pendant ce temps, Martin Fayoulou est resté bloqué à Goma dans le Nord Kivu. La campagne électorale n'est pas équitable. Qu'on nous laisse faire notre campagne, a souligné le candidat de la coalition Lamouka qui, lors d'un point de presse, a raconté à la presse comment il a été empêché par le pouvoir en place de se rendre à Kindu, puis à Kolwezi. De son côté, le candidat du Front commun pour le Congo était jeudi à Arou et à Mahagi, deux territoires de la province de l'Ituri. Emmanuel Ramazani Shadary y a poursuivi son opération séduction et a appelé la population à voter pour lui pour un Congo meilleur. Il est attendu à Kisangani ce vendredi. Un autre candidat président de la République, le premier ministre honoraire Sami Badibanga, vient d'annoncer par Matadi le lancement de sa campagne électorale à moins de deux semaines des élections. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et en seconde partie de cette édition, nous reviendrons plus en détail sur le déroulement de la campagne électorale en RDC.
Au Cameroun, 289 détenus de la crise anglophone vont sortir de prison. Les poursuites judiciaires devant les tribunaux militaires qui les concernaient ont été levées hier suite à une décision du président Paul Biya. De Yaoundé, des précisions de notre correspondant Emmanuel Julentap.
Une source de sécurité à Yaoundé, ayant requis l'anonymat, a confié à VOA Afrique que Ayouk Tabe Sissoukou, leader de séparatistes anglophones, et neuf de ses collaborateurs extradés du Nigeria ne sont pas concernés par cette décision d'arrêt des poursuites judiciaires devant les tribunaux militaires du Cameroun. Les 289 personnes qui vont être libérées, précise le communiqué de la présidence de la République, sont celles ayant commis des délits dans le cadre de la crise dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Selon certains observateurs, la mesure présidentielle pourrait davantage bénéficier aux jeunes détenus séparatistes anglophones à qui le président Paul Biya avait lancé un appel le 6 novembre dernier à renoncer à la violence et à revenir dans le droit chemin. Pour la deuxième fois, depuis le déclenchement de la crise anglophone, le président Paul Biya ordonne l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains détenus anglophones. Yaoundé, Emmanuel Julentap, VOA Afrique.
Pour leur part, les États-Unis ont réclamé un dialogue immédiat et sans conditions préalables entre le gouvernement du Cameroun et les séparatistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que l'arrêt de la violence, a affirmé jeudi l'ambassadeur adjoint américain à l'ONU, Jonathan Cohen. Nous exhortons toutes les parties à renoncer à la violence, à rétablir la paix et à résoudre leurs griefs par le dialogue politique, a ajouté le diplomate américain lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux pays du centre de l'Afrique.
Le Conseil de sécurité qui a renouvelé jusqu'à Fin 2019, la mission de paix de l'ONU en Centrafrique, au terme de difficiles et longues négociations entre la France, les États-Unis et la Russie, qui a dénoncé une approche française orgueilleuse. Rédigée par la France, la résolution a été approuvée par 13 des 15 membres du Conseil, la Russie et la Chine s'abstenant. Les critiques les plus virulentes sont venues de la Russie, qui a multiplié en 2018 ses engagements bilatéraux dans l'ancienne colonie française, fourniture d'armes, formation de soldats centrafricains, médiation parallèle, conseil et protection de la présidence.
Selon les Nations Unies, dans l'ouest du Niger, quelques 52 000 personnes ont été forcées de se déplacer depuis janvier dans les régions de Tillaberi et de Tawa. Cette zone frontalière du Mali est le théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes. Des détails avec Nanit Talani.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés indique être vivement préoccupé par la persistance de la violence dans les zones frontalières du Niger, jouxtant le Mali et le Burkina Faso, qui a forcé 52 000 Nigériens à fuir leur foyer au cours de cette seule année. Cette partie, appelée la zone rouge, est le théâtre d'effroyables violences de groupes armés qui tuent, enlèvent des civils, brûlent les écoles et pillent les maisons, les entreprises et le bétail. Ces menaces empêchent la distribution de l'aide à l'ensemble des personnes dans le besoin, regrette le HCR, qui dénonce une situation à la fois alarmante et extrêmement instable. En juillet et octobre, des corridors humanitaires négociés avec la force conjointe du G5 Sahel et les forces nigériennes avaient permis au Programme alimentaire mondial et à des ONG d'acheminer des vivres à plusieurs milliers de déplacés dans la zone rouge.
John Bolton, conseiller de la Maison-Blanche en matière de sécurité nationale, a révélé hier la nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique. Il a promis d'utiliser avec parcimonie l'argent du contribuable américain, ainsi qu'une compétition aux allures de guerre froide avec les rivaux des États-Unis. John Lennon.
John Bolton, hier à Washington, a déclaré que la Chine et la Russie étendent rapidement leur influence financière et politique à travers l'Afrique. Il a déploré pêle-mêle les pots de vin, des accords opaques, le recours chinois à la dette pour tenir les États africains en otage ou encore le pillage russe des ressources naturelles. Il a dénoncé les comportements prédateurs de Pékin et Moscou en Afrique, qui, selon lui, pose une menace aux intérêts américains. Les États-Unis, qui font toujours de la lutte contre le terrorisme islamiste une de leurs priorités, veulent que les pays africains prennent en main leur propre sécurité. Il a plaidé pour rationaliser, revoir ou mettre fin aux missions de l'ONU qui ne favorisent pas une paix durable. Notre objectif est de résoudre les conflits, pas de les geler indéfiniment, a insisté l'ancien ambassadeur américain aux Nations Unies. Il a promis de passer au peigne fin l'aide économique à l'Afrique, car selon lui, des milliards et des milliards de dollars des contribuables américains n'ont pas toujours abouti aux résultats escomptés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Sénat américain a lancé hier un avertissement historique à l'Arabie Saoudite, pays allié de longue date des États-Unis, en adoptant à une majorité de 56 à 41 une résolution pour mettre fin au soutien de Washington à l'intervention militaire de Riyad au Yémen. La Chambre haute a aussi approuvé une autre mesure condamnant le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier au consulat de son pays à Istanbul, en Turquie. Il s'agit assurément d'un double défi à l'administration Trump, qui s'est prononcé énergiquement contre une rupture de la coopération entre les États-Unis et le Royaume saoudien. Le sort de cette résolution à la Chambre des représentants reste incertain.
Yémen toujours. Hier en Suède, le secrétaire général de l'ONU a annoncé à l'issue de consultations de paix un accord âprement négocié entre belligérants. Objectif, faire taire provisoirement les armes dans plusieurs régions dévastées du Yémen, au bord de la famine. Des détails avec Irénée Herman Ungo.
Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur dans les prochains jours à Hodeïda, port de la mer Rouge, par où entre l'essentiel de l'aide au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique et où sévit selon l'ONU la pire crise humanitaire du monde. Les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite sunnite et les combattants houthis appuyés par l'Iran chiite doivent se retirer de la ville. L'ONU jouera un rôle clé dans le contrôle du port, a précisé Antonio Guterres lors d'une cérémonie en présence des deux délégués délégation. 30 observateurs de l'organisation pourraient être déployés dans la ville. Le ministre yéménite des Affaires étrangères Khaled Al-Yemani et le négociateur en chef des rebelles Houthis Mohamed Abdel Salah ont échangé une poignée de main à forte symbolique à l'issue de la cérémonie. La ville de Taïz, ravagée par les combats, doit également être soulagée par l'ouverture des couloirs humanitaires.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Zimbabwe autorise la société anglo-américaine De Beers et l'entreprise anglaise Vast Resources à exploiter ces diamants. Cela en ferait les premières entreprises cotées en bourse à explorer ce secteur depuis 2 ans. Pour attirer les investissements étrangers et rétablir la confiance des entreprises depuis le renversement de Robert Mugabe, le Zimbabwe a amendé les lois sur de nombreux minéraux tout en limitant la propriété étrangère des projets de platine et de diamants à une minorité, mais que l'État lui-même détient à 51%. Le Nigeria déclare que son économie devrait connaître une croissance de 3% en 2019. La Banque mondiale prévoit une croissance économique légèrement inférieure à 2% en 2018, tandis que la Banque centrale du Nigeria table sur une croissance de 1,75%. Selon le Bureau nigérian des statistiques, l'économie avait progressé de 1,81% au troisième trimestre, après 1,95% et 1,50% au premier et deuxième trimestre. La Côte d'Ivoire annonce 2 nouveaux vols directs Abidjan-Washington et Abidjan-Montréal. Le but est d'accroître l'apport des transports dans son PIB qui se situe entre 7% et 12%. La future ligne Abidjan-Washington sera la 2e liaison aérienne directe avec les États-Unis après l'ouverture il y a quelques mois de la 1re liaison reliant Abidjan et New York effectuée par la compagnie aérienne Ethiopian Airlines.
À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Fédération ivoirienne de football a saisi le tribunal arbitral du sport contre le retrait de sa CAN 2021.
Et oui, à l'issue d'une rencontre avec les clubs locaux, la Fédération ivoirienne de football a dévoilé hier un communiqué explicite, je cite, « La FIF a été surprise d'apprendre que le président de la CAF a décidé de sa seule autorité et sans aucune concertation préalable avec elle de réattribuer au Cameroun l'organisation de l'édition de la CAN 2021, jusque-là confiée par la CAF à la Côte d'Ivoire. » Fin de citation. L'instance nationale du football ivoirien a ensuite indiqué qu'elle a saisi le TAS pour se faire rétablir dans ses droits. Cette sortie intervient alors que mercredi, le porte-parole de la présidence ivoirienne a annoncé l'arrivée prochaine du président de la CAF Ahmad Ahmad à Abidjan pour s'entretenir avec les autorités sur le sujet.
La CAF a enfin son premier candidat déclaré à l'organisation de la CAN 2019.
L'Égypte a officialisé sa candidature dans un communiqué posté sur Twitter et Facebook. Soucieux de ne pas faire de l'ombre au Maroc, le pays de Mohamed Salah avait déclaré la semaine dernière qu'il n'est pas candidat pour accueillir le tournoi à la place du Cameroun. Mais finalement, le Maroc a annoncé mercredi qu'il ne se portera pas candidat. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la CAN, la dernière en 2006. Les prétendants ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur dossier de candidature. Le pays hôte de la CAN, prévu du 15 juin au 13 juin, et pour la première fois à 24 équipes, sera connue le 9 janvier.
Une CAN 2019 à laquelle la Tunisie prendra part, elle qui tient enfin son nouveau sélectionneur.
Il s'agit d'Alain Giresse. 2 mois après le départ de Faouzi Benzarti, la Fédération tunisienne de football a annoncé le recrutement du technicien français. Il a signé un contrat de 18 mois renouvelable. Sans poste depuis plus d'un an, l'ancien sélectionneur du Gabon reprend ainsi du service. La dernière fois qu'on l'a vu sur un banc, c'était avec le Mali en septembre 2017, au sortir d'un match nul face au Maroc 0-0, il a jeté l'éponge. Passé aussi par le Sénégal, Alain Giresse va tenter d'apporter une stabilité sur le banc des Aigles de Carthage.
L'Espérance Tunis connaît son adversaire au Mondial des clubs.
Demain, le champion d'Afrique en titre entrera en lice en quart de finale face au club émirati d'Al Ain. Le représentant du pays hôte, les Émirats Arabes Unis, a validé son bien en écartant Wellington au tir au but lors du premier tour. Pourtant mené 3-0 à la mi-temps, les locaux ont complètement renversé la vapeur grâce notamment à un but du Malien Tongo Doumbia. Le club tunisien est donc prévenu. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Deux résultats, Houston et LA Lakers 126-111, San Antonio et LA Clippers 125-87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur les actes de violence, d'intolérance politique et d'incitation à la haine observés ces derniers jours lors de la campagne électorale en République démocratique du Congo. À 9 jours des élections du 23 décembre, des morts ont été enregistrées à Lubumbashi, à Kalemi, parmi les partisans de la coalition Lamuka et de son candidat, Martin Fayulu. L'opposant accuse le Front commun pour le Congo, la coalition pro-pouvoir, de prendre le pays en otage et de l'empêcher de battre campagne normalement. Le Front s'en défend et accuse à son tour Martin Fayulu et ses militants de provocation. La population et l'ONU, pour leur part, appellent ces acteurs politiques à la tolérance. Reportage de Thierry Kamoundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les trois candidats favoris à la présidentielle du 23 décembre 2018 ont multiplié des accusations d'intolérance politique les uns envers les autres. Félix Tshisekedi, qui n'a pas pu se rendre mercredi à Butembo pour tenir son meeting, accuse la coalition Lamuka de Martin Fayulu d'avoir planifié la perturbation de cette activité.
Nous avions déjà commencé à nous diriger sur la route de Butembo et le contingent de police, à un moment, nous a fait signe qu'il allait s'arrêter là. Et ils nous ont fortement déconseillé de partir seul, sans protection, d'autant plus que les perturbateurs de la Mouka ont des relais dans les Maïmaï et qu'ils vont sûrement donner des coups de fil pour qu'on nous coupe la route, nos amis de la Mouka. Je ne sais pas pourquoi ils s'en prennent à nous, alors que nous sommes censés avoir un adversaire commun qui est le pouvoir. D'un côté, ils jouent aux victimes au Katanga, mais de l'autre, ce sont eux les bourreaux.
Faux, réplique Pierre Lumbi. Le directeur de campagne de Martin Fayulu évoque notamment la situation vécue par son candidat à Lubumbashi et à Kalemie pour affirmer que c'est bien sa coalition qui est victime d'intolérance politique.
C'est nous qui sommes victimes et c'est nous qu'on accuse. Aujourd'hui, c'est pas les militants de l'IDPS qui sont morts, c'est la population encadrée par la Mouka. Je pense qu'il se trompe d'ennemi. J'ai lancé un appel pour que la population ne cède pas à la violence, à la provocation. Nous sommes des non-violents et nous les resterons. Nous condamnons les groupes armés et s'il y a des gens qui ont empêché Cash de faire ses meetings, nous les condamnons publiquement et nous attendons qu'il condamne ce qui s'est passé à Kalemie, à Lubumbashi.
Accusé d'utiliser l'appareil de l'État pour favoriser son candidat au détriment d'autres, le Front commun pour le Congo s'en défend à son tour et accuse les partisans de Martin Fayulu de déchirer les affiches de son candidat Ramazani Shadari et de ses candidats députés nationaux. Félix Kabange Numbi est membre du comité stratégique du FCC.
Le FCC, en tant que coalition politique, nous nous occupons des affaires politiques. Nous ne pouvons pas ici dire qu'on a autorisé à qui que ce soit de tirer sur quelqu'un. Si jamais il y a eu un policier qui aurait tiré, je pense que les services sont là. Les coupables seront traduits en justice. Mais nous, ce que nous disons, c'est justement cette succession de provocations. Ils veulent à tout prix qu'il y ait des incidents.
Dans un communiqué rendu public à Kinshasa, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougui, a déploré les pertes en vies humaines et demandé aux autorités congolaises de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents. Les Kinois interrogés par VOA Afrique déplorent pour leur part le fait que la violence et l'intolérance aient pris le dessus sur le débat d'idées censé caractériser cette période de campagne électorale.
C'est très regrettable. Hein? Nous avions besoin de programmes de chaque candidat. C'est ce qui peut donner l'occasion à un électeur de choisir un candidat. Non les attaques, non la violence.
C'est vraiment déplorable parce que nous sommes à la troisième expérience des élections dans notre pays. On ne devait pas assister à des problèmes comme ça. Je fais appel à toute la population congolaise d'être trop vigilant. Il ne faut pas suivre les incitations au tribalisme surtout.
Kinshasa, Thierry Kamoundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours dans le cadre de cette campagne électorale en RDC, il y a une montée donc de tensions palpables avant le vote du 23 décembre. Pendant la campagne, il y a eu des morts à Kindu, Lumumbashi, Kalemie et Mujimai. Puis un dépôt de la commission électorale a été incendié à Kinshasa. Est-ce que les prochaines élections seront apaisées? Idriss Fall a recueilli l'avis de Trifon Kinkei Mulumba, un des 21 candidats à l'élection présidentielle.
Il y a d'abord effectivement ce mot apaisement qui est très souvent entendu. C'est qu'il y a des gros problèmes. Tout un décor est planté pour des élections chaotiques et il y a cette machine à voter que d'aucuns appellent machine à voler qui semble être programmée pour un plébiscite. Et quand on voit toutes ces foules qui se déversent derrière chacun des candidats, ces foules qui croient en ce processus, j'ai comme l'impression qu'au lendemain d'une annonce, on verrait effectivement ces foules se déverser dans nos rues sans qu'elles n'aient été appelées à se jeter dans la rue.
Les gens se mobilisent pour aller dans une manifestation, ça ne veut pas dire qu'ils vont se mobiliser pour aller voter pour quelqu'un.
Exact. Ce sont finalement les mêmes foules qui se déversent dans la rue pour aller voir, applaudir quelqu'un qui arrive. Quand on voit par exemple dans une ville comme Bukavu, après le départ de tel candidat, un autre arrive, ce sont toujours les mêmes foules. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est des foules de curiosité ou c'est des foules d'adoption?
Kinshasa est connu, c'est la capitale. Et Kinshasa, depuis l'époque de Mobutu, a tout le temps été une ville rebelle. Est-ce que c'est suffisant pour certains opposants de dire qu'on va gagner les élections?
Bon, Kinshasa, c'est quand même un stock d'électeurs importants. Ça fait quand même le swing state du Congo, avec environ 5-6 millions d'électeurs.
Sur 40 millions d'électeurs, voilà. Quand même. Hein?
Absolument, mais on a une vingtaine de provinces. Donc il ne faut pas... Rien que Kinshasa, vous avez 7 millions, vous avez le Katanga, vous avez le Nord Kivu, vous avez le Sud Kivu, vous avez le Bandundu, enfin le Kwilu. Voici les grosses provinces qui ont des stocks d'électeurs, qui sont des swing states en effet. Et quand vous faites du 40-45% à Kinshasa et vous faites pareil dans le Kivu, dans le Bandundu, il est clair que vous êtes élu.
Trifon Kinkei Mulumba, un des 21 candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Les États-Unis vont accroître leurs investissements en Afrique pour contrecarrer les offensives chinoises et russes. C'est ce que déclare John Bolton, conseiller présidentiel en matière de sécurité nationale, qui était l'invité du groupe de réflexion Heritage Foundation pour discuter de la stratégie africaine de l'administration Trump. Compte rendu d'Abdourahman Dia.
Washington n'entend pas laisser le champ libre à Moscou et à Pékin qui mènent des offensives en Afrique. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale.
Nos grands rivaux que sont la Chine et la Russie développent rapidement leur influence financière et politique à travers l'Afrique. Ils investissent délibérément et de façon agressive pour devancer les États-Unis sur le continent. Entre 2016 et 2017, l'investissement direct chinois a atteint 6,4 milliards de dollars.
La Chine en a pris pour son grade. John Bolton l'accuse de favoriser la corruption en Afrique en facilitant des prêts à des pays qui ne respectent pas les normes démocratiques et les droits humains, qualifiant de prédatrices ces pratiques qui créent une relation de dépendance économique entre Pékin et le continent.
China uses bribes.
La Chine utilise des pots de vin, des accords opaques et utilise la dette pour tenir les États africains dépendants des demandes et de la volonté de Pékin. Ces investissements vont avec la corruption et ne respectent pas les mêmes normes environnementales et éthiques que les États-Unis.
John Bolton donne l'exemple de la Zambie qui doit 6 à 10 milliards de dollars à la Chine. Conséquence, Pékin pourrait prendre le contrôle de la Compagnie nationale d'électricité pour rentrer dans ses fonds. En contraste, Washington propose un partenariat gagnant-gagnant qui favorise les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis et le développement de l'Afrique. Mais John Bolton insiste sur le bon usage de l'argent du contribuable américain.
Désormais, nous n'allons plus tolérer cette pratique de l'aide de longue durée sans résultat. Il n'y a pas d'assistance sans responsabilité ni d'aide sans réforme.
John Bolton a été plus clair sur l'utilisation de l'argent du contribuable. Selon lui, l'administration américaine ne va plus permettre que les impôts durement payés par les Américains servent à aider des autocrates corrompus à remplir leurs coffres aux dépens de leur population ou pour commettre de graves violations des droits de l'homme. John Bolton a annoncé la mise en place d'une politique dite « Afrique prospère » qui met l'accent sur l'investissement, la croissance économique et une amélioration de l'environnement des affaires sur le continent.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Chaque année, des scientifiques du monde entier se retrouvent en automne lors de la conférence de l'Union américaine de géophysique, une occasion d'échanger des connaissances, de partager des découvertes, de rencontrer d'éminents penseurs et d'en apprendre davantage sur la recherche innovante. Et au milieu de tous ces dialogues et discussions scientifiques, l'Union a reconnu les réalisations extraordinaires de 95 personnes dont les contributions grâce à la collaboration, aux recherches novatrices et au mentorat des futures générations de scientifiques ont considérablement changé la science. Le professeur Frédéric Ouattara de l'université Norbert Zongo de Kédougou au Burkina Faso fait partie des trois lauréats africains de cette année. Arzuma Compaoré.
Qu'il s'agisse des profondeurs des océans ou de l'atmosphère terrestre, ou mieux encore de l'immensité de l'espace, les 95 lauréats, médaillés, récipiendaires de prix et membres ont chacun accepté leur distinction au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au cœur de la capitale américaine. Parmi ces héros de la science mondiale, trois Africains ont gravi la tribune d'honneur. L'Éthiopien-Américain Ndawuki Yizengao, médaille Joan Simpson pour scientifique à mi-carrière. Le Nigérien Azigbobor Phillips, prix africain d'excellence dans la recherche des sciences terrestres. Et le Burkinabé Frédéric Ouattara, prix africain d'excellence dans la recherche des sciences de l'espace. Ce dernier est le vice-président de l'université Norbert Zongo de Kédougou, chargé des enseignements et des innovations pédagogiques.
Entre 85 et 1000 km, il y a ce qu'on appelle l'ionosphère et puis la magnétosphère qui sont perturbées par les actions du soleil en fait. Et donc on veut savoir quels sont les impacts du soleil sur ces deux couches-là et surtout pour savoir si on peut regarder l'évolution du changement climatique à travers l'ionosphère. On a un pays à 80-90% des cultivateurs. Il importe pour nous pouvoir déterminer si oui ou non une bonne pluviométrie demain pour mieux en satisfaire à ce qu'on appelle chez nous bien manger en général. Et ensuite, cette couche permet de pouvoir savoir si oui ou non il y a une bonne méthode pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la bonne conduction des ondes pour la téléphonie, par exemple mobile, on peut savoir si oui ou non, pourquoi les ondes sont perturbées et au niveau de la communication maritime, aérienne et puis aussi spatiale.
L'ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis, présent à la cérémonie, a exprimé ses félicitations à l'endroit de son compatriote pour cette récompense.
Voir qu'un compatriote se retrouve dans le gratin mondial au niveau de cette science-là, et puis lui c'est dans l'espace, un univers difficile à atteindre. Je crois qu'il n'y a pas meilleure satisfaction de se retrouver à côté de lui. On est fier et ça fait penser aux efforts qui restent encore à faire dans notre pays pour que la science, celle qui essaie d'administrer le monde de demain, ait une position beaucoup plus importante. Je pense qu'il y a un effort, il y a des choix à faire.
Cette reconnaissance de la communauté scientifique internationale est donc une nouvelle preuve de la contribution de l'Afrique, mais aussi un appel à l'endroit des générations futures.
Nous sommes deux, l'autre est en bas atmosphère, c'est-à-dire l'océan et la Terre. Moi, je suis dans l'espace, en fait. Ça fait les deux personnes pour combler, en fait, le vide du continent africain. Il importe que l'Afrique se mette au diapason de la science.
L'Union américaine de géophysique, une organisation forte de 60 000 membres et dont la mission est de promouvoir la découverte dans le domaine des sciences de la Terre et de l'espace au profit de l'humanité, se prépare déjà à commémorer un siècle de découvertes et d'innovations tout au long de l'année prochaine.
VOA Afrique vous donne la parole.
dans un nouveau programme interactif à votre avis du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.